Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous proposer un voyage, une aventure. Assez loin, dans ces mondes polaires, le Groenland, dans ces pays arctiques que l'on ne connaît pas forcément et où vivent des civilisations, des gens. Avec leurs us et coutumes, leur religion, leur histoire aussi, bien loin de cette époque moderne qui sans doute les a rattrapés. Pour nous parler de ces mondes lointains, dirais-je, de ces mondes polaires, eh bien, il fallait le talent, la grandeur d'un grand explorateur qui est Paul-Émile Victor, qui nous a quittés en 1995. Et pour nous parler de lui, de cette belle aventure, eh bien, celle qui a, on va le voir, travaillé auprès de lui et qui est avec lui à l'origine de ce livre, La civilisation du phoque. Donc, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir Madame Joëlle Robert Lamblin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour délivrez-vous pour ces deux ailes, pour ce magnifique ouvrage La civilisation du phoque aux éditions Belin. Donc je disais, c'est un hommage vibrant, émouvant, très riche aussi pour Paul-Émile Victor. Vous êtes anthropologue, ethnologue?
Oui, l'un ou l'autre.
Les deux. Oui, voilà.
Absolument.
Voilà, vous avez travaillé 40 ans, vous m'avez dit, on va dire aux auditrices, auditeurs, nous nous sommes parlé ce matin un peu pour parler de l'interview, vous avez travaillé durant 40 ans dans ces mondes lointains et froids, en Sibérie. La situation du phoque au niveau de ce monde polaire de Groenland, Paul-Émile Victor, il y a été de 1934 à 1937. Enfin, vous allez nous raconter un peu la genèse de ce livre, et puis au travers de ce livre et de vos mots et de votre histoire, eh bien c'est un bel hommage que nous allons lui rendre. Alors, tout d'abord, pourquoi ce livre? Quelle en a été l'histoire? Elle débute où, cette belle histoire avec Paul-Émile Victor?
Ah ben pour lui, elle débute en 1934,
oui.
Quand il est parti avec Charcot sur le Pourquoi pas,
oui.
Et trois autres jeunes gens, Robert Gessin, Michel Pérez et un cinéaste.
Oui.
J'ai oublié son nom.
C'est pas grave.
Voilà, donc ils ont été, ils ont hiverné à Massalik, c'est-à-dire sur la côte orientale du Groenland,
oui.
Avec l'idée d'étudier cette petite communauté qui était restée à l'écart du monde occidental pendant finalement plusieurs siècles,
oui.
Jusqu'à 1884, mm-hmm. Où là, elle fut découverte par Gustav Holm, un officier danois, qui a pénétré cette banquise presque intraversable,
oui.
Donc 50 ans avant l'équipe de Paul-Émile Victor.
Mm-hmm. D'accord. Et donc... Je suppose qu'au travers de ce voyage, donc de 1934 à 1937, comment ça se passe? Il a écrit, il a dessiné, il a relaté, et il y a eu des carnets d'écrits?
Oui, alors ça n'a pas été d'un seul tenant, ça a été deux hivernages,
oui.
Un 34-35 et puis un autre
36-37.
Oui, avec une traversée en traîneau à chien de l'Indamsis, parce que pour le deuxième séjour, ils ont traversé l'Inlandsis à pied, mm-hmm. Et avec des traîneaux à chien.
Oui.
Paul-Émile Victor avait été formé, il était ingénieur de formation, mais il avait aussi suivi les cours d'ethnologie, mm-hmm. Auprès d'un grand maître qui s'appelle Marcel Mauss,
oui.
Et qui avait donné une méthodologie pour recueillir tout ce qu'on peut recueillir, mm-hmm. Sur le terrain, sur le plan linguistique et sur le plan des techniques et des modes de vie. Et il a rempli des carnets,
oui.
Des fiches, de façon très méthodique et très... C'est très impressionnant le travail qu'il a réalisé,
oui. Oui.
Et qu'il a complété après dans son deuxième hivernage où là, il est resté seul dans une avec une famille qu'on appelait Eskimo à l'époque.
Eskimo à l'époque, oui. Alors, pour parler un petit peu de lui, parce qu'il a des dates, il est né en 1907 à Genève et il est décédé en 1995 à Bora Bora. Voilà.
Oui, c'est bien ça. Alors, il était connu du public français très vite à Tartu.
Oui.
Il avait aussi publié Banquise et Boréal, qui sont ces journaux de terrain extrêmement bien écrits et très, très agréables à lire. Mais ces carnets de terrain, son travail d'ethnologue, était resté presque inconnu. Pendant longtemps, il s'est tourné vers d'autres horizons, l'Antarctique, il a été très pris, une carrière très, très pleine d'activités, et il avait un petit peu délaissé ses carnets d'ethnologue
qu'il a
repris à la fin de sa vie. Et c'est là que j'interviens.
C'est là que vous intervenez.
Oui.
Vous êtes à ce moment-là au CNRS?
Oui, au CNRS. J'étais au CNRS. Toute mon existence.
Oui. Vous êtes encore aujourd'hui membre honoraire, si
c'est
cela. Oui.
Oui, parce qu'on ne raccroche jamais.
On ne raccroche jamais.
Mais
je comprends.
J'ai passé aussi plusieurs décennies au Musée de l'Homme tout en étant au CNRS.
Oui.
J'étais au Musée de l'Homme.
Oui.
Et j'ai commencé à travailler auprès de Robert Gessin.
Oui.
Donc sur cette même ethnie, ce qu'on appelle des Amassalimiotes.
Les Amassalimiotes,
Amassalimiotes de la côte est du Groenland.
Oui.
Et en 67, j'ai exprimé le désir auprès de Robert Gessin d'aller aussi moi-même voir ce qu'était devenu cette ethnie, et voir surtout son évolution à travers le temps.
Bien sûr. Alors, surtout, ce qui est impressionnant dans le livre, c'est que on s'approprie cette ethnie au travers de leur histoire, la couture, la religion, comment ils se nourrissent, comment ils vivent, comment comment le monde moderne les approche ou comment eux s'y en approchent. Et alors, avec les dessins, etc., vous, il y a votre texte avec la caractéristique d'apporter de la lumière, de l'éclairage, pour mettre, on le sent dans le livre, mettre en valeur tout le travail de Paul-Émile Victor.
Oui, ça demandait des explications, parce que lui recueillait des données factuelles à ce moment-là, qui sont vraiment des trésors pour la connaissance, notamment de la langue, et des pratiques, mais s'il n'y a pas un peu d'explication, c'est difficile pour un public très large de comprendre comment fonctionnait cette communauté, effectivement, dans sa vie quotidienne, dans sa spiritualité, dans les jeux qu'elle avait créés, la vie, avec une vie d'hiver et une vie d'été très, très, très marquée, par des changements de techniques et de modes de vie. Enfin, c'était tout à fait fascinant, mais ça avait besoin d'un éclairage.
Tout à fait. Alors, il y a une préface d'Enki Bilal, que chacun peut-être connaîtra en tant que dessinateur. Dans sa préface, il dit « Ce livre fait un bien fou ». Et c'est vrai que ça fait un bien fou. C'est une respiration, c'est une aventure, c'est un voyage. Peut-être que la plupart ou beaucoup d'entre nous n'iront jamais. Et je vous disais ce matin, moi, je rêve de ces grandes plaines froides. Et sans doute faut-il que je me dépêche, et notamment pour aller au Groenland. L'amour aussi de ces grands aventuriers de l'extrême qui nous ont ouvert des portes, des mondes, un regard différent aussi sur ces civilisations lointaines. Et peut-être parfois je me dis, ça aurait été peut-être bien qu'elles ne soient jamais découvertes pour certaines. Mais c'est vrai que ce livre fait un bien fou.
Oui, c'est très sympathique cette préface.
Ah oui.
Et il est entré en empathie, en fait, avec Enki Bilal, avec cette communauté qu'il ne connaissait pas et qu'il a découverte. Et il décrit bien ce qu'il a ressenti. Alors, c'est évidemment une population qui a beaucoup changé entre le moment où il y avait Paul-Émile Victor et même moi au cours de 40 années d'observation.
Oui. Parce que vous avez vu l'évolution.
J'ai vu changer.
Le changement.
J'ai vu changer. J'ai vu C'est inévitable d'abord parce qu'elle s'est ouverte sur le monde extérieur par le moyen des contacts aériens. Ça a beaucoup changé aussi les choses. Et puis alors tout dernièrement, évidemment, avec le réchauffement climatique, il y a des bateaux de tourisme qui arrivent. Ça, c'est tout à fait étonnant parce que...
Est-ce que pour vous, c'est dommageable?
Ah ben oui, c'est dommageable pour... C'est inévitable, mais c'est dommageable pour la population qui perd un peu qui perd ses repères, qui perd un peu son âme.
C'est ce que j'allais vous dire.
Les choses sont allées sans doute trop vite pour eux.
Ouais.
Et il y a aussi des problèmes très réels dans cette société du fait de justement d'une évolution accélérée. On y trouve de la violence, on y trouve des problèmes d'alcoolisme, on trouve des problèmes de suicide.
C'est ce que j'allais vous dire.
Et ça, c'est effectivement quelque chose
de dommage.
Attristant.
Ça m'a fait penser à toutes ces populations, à toutes ces civilisations que l'on a découvertes et un peu plus proches de nous, que l'on connaît mieux, les Indiens d'Amérique, qu'à partir du moment où les Européens sont arrivés, eh bien, il y a eu des problèmes d'alcoolisme, on les a européanisés ou occidentalisés. Et finalement, ça a été pour leur extinction. Donc, c'est vrai que moi, je suis toujours un petit peu dubitative et toujours un peu inquiète.
Pourtant, la colonisation danoise avait été lente et prudente au départ parce qu'ils étaient conscients que c'était une population fragile.
C'est vrai.
Pour commencer, les maladies européennes.
Oui.
Ils n'avaient pas développé d'anticorps. Donc, elles ont été les premières maladies, peut-être banales chez nous, ont été assez effrayantes pour cette population.
Oui.
Donc, au début, les contacts étaient très limités. Et puis après ça, au contraire, quand le pays est passé de colonie à partie intégrante du Danemark, dans les années 50, les Danois ont voulu faire... avancer à marche forcée pour être comme des citoyens danois, donc avec l'éducation, des systèmes de santé, tout un développement un peu trop rapide peut-être pour ces sociétés qui étaient restées à l'écart si longtemps.
Oui. Alors, le livre s'appelle « La civilisation du phoque » parce que le phoque a une importance énorme au sein de leur vie, dans leur quotidien.
Oui. Alors, le phoque, pour toutes les populations inuites qui vivent donc au bord des océans, le phoque a toujours été important. Mais là, c'était devenu vraiment une civilisation parce que les baleines avaient été surchassées par des chasseurs européens anglais.
Anglais, irlandais, écossais, etc. Voilà, tout à fait.
Voilà, et donc, à un moment, ils n'avaient plus vraiment que le phoque pour survivre. Et le phoque était là, vraiment l'élément qui leur servait... pour survivre et se développer parce qu'ils avaient non seulement survécu mais aussi développé un art. Tous leurs objets étaient extrêmement ornés. Leur culture est très intéressante. Il y a tradition de chant, de danse.
Oui. Ah oui, la poésie, les jeux, tout à fait. Oui.
Voilà. Donc le phoque apportait par sa graisse chaleur, puisqu'on en tirait, avec l'huile, on chauffait les maisons et on s'éclairait.
Complètement.
Oui, la nourriture, bien sûr très essentielle et qui reste encore maintenant très importante.
Très importante,
eux, symboliquement en tout cas. Et puis les vêtements avec le cuir et les fourrures, c'était les vêtements. Donc c'était avec les os, on faisait des outils. Donc c'était une vraie civilisation tournée autour du phoque.
Tout à fait. Moi, il y a un chapitre qui m'a, ils m'ont tous plu, mais un chapitre qui m'a vraiment intéressé, c'est sur le chamanisme.
Ah oui, c'est intéressant.
Ah oui.
Et c'est Oui.
C'est assez mystérieux. C'est assez mystérieux en même temps.
Oui, mais c'est un peu ce qui tenait la clé de voûte de la société,
oui.
qui craignait beaucoup de choses dans ce climat, et qui craignait la famine, la disette, le malheur, etc. Mm-hmm. Et le chaman avait le pouvoir de remettre de l'ordre dans la société en allant visiter et implorer les grandes divinités qui régissent l'univers. C'est une société animiste qui voyait dans chaque... dans le paysage, dans la nature et même dans les objets de la maison, des êtres, des petites âmes. Et donc, c'était un univers peuplé peuplé d'âmes et les unes ayant plus d'importance que d'autres. Donc, le chaman était effectivement un élément clé de régulation.
De régulation et d'ordre aussi un petit peu.
Vous dites ?
D'ordre aussi un peu.
Ah oui, d'ordre, absolument. D'ordre. Mm-hmm. Et de remise en ordre, etc. Mm-hmm. Oui. Et il pouvait aussi soigner, alors ça c'était les chamans, les grands chamans,
les grands chamans,
plus mineurs, pouvaient soigner les gens en rétablissant justement la maladie, c'était un désordre survenu dans le corps.
Oui.
Donc, en rétablissant l'ordre, c'est-à-dire l'âme qui s'était échappée du corps, d'une partie du corps, en la remettant dans...
On remettait les choses en place. On remettait les choses en place.
Voilà. Et on guérissait. Oui.
On s'aperçoit aussi que c'est une civilisation... Alors, tout est... J'ai trouvé que tout était bien organisé. La moindre petite chose, tout est important. Rien n'est laissé au hasard. Jeux, la couture, l'éducation, la religion, la nourriture, les sciences aussi, à leur façon, tout est bien organisé, tout est bien orchestré, chacun sa place, chacun son rôle. J'ai trouvé que c'était vraiment un ordre établi, avec bien sûr aussi leur joie, leur peine, leur rite aussi, leur rituel. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment une société extraordinaire, cette façon de faire et de vivre.
Oui, et oui, alors les rôles aussi entre l'homme et la femme, bien déterminés
aussi. Bien déterminés aussi,
Et complémentaires, totalement complémentaires.
C'est vrai, oui.
Oui, donc on ne pouvait pas imaginer le célibat, puisque un chasseur avait vraiment besoin de sa femme pour accomplir après tout le travail qu'il a une fois le gibier rapporté.
Tout à fait.
Et s'il y avait une veuve, il fallait qu'elle reste dans la communauté, en devenant éventuellement la deuxième épouse d'un bon chasseur. Mais justement, il y avait, c'est assez fantastique, comme une réponse à toutes les situations. Il y a eu des très grandes famines, il y a eu des scènes très violentes. Oui, au moment de la, notamment à la fin du 19e siècle, il y a une période de très grande famine et il suffit que le climat se dérègle, devient très froid et que on peut plus l'été on se reconstitue sur l'été l'automne on se constitue
des
provisions pour l'hiver
tout à fait.
Et si jamais le climat ne l'a pas permis c'est l'hiver qui survient est très
difficile.
Voire mortifère.
Mais ça me fait penser un petit peu à ces populations, à ces civilisations, on va dire du début 20e encore, quand la Sibérie, vous savez, il y avait les izbas avec ces chasseurs d'ours, avec les marmottes, ceux qui traquaient les animaux pour la peau, qui en vivaient, qui s'habillaient, qui vivaient avec, etc., avec ces trappeurs. J'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps sur ça, et j'ai fait un peu le parallèle où il faut... Les étés peuvent être très chauds et on fait les réserves pour l'hiver ou l'hiver il peut faire moins 40, moins 50. Et vous avez vécu, vous avez 1967 à 2007, je crois, la Sibérie pour vous a été aussi une grande aventure.
Alors, j'ai commencé par le Groenland.
Oui.
Et je suis allée aussi dans les îles Aléoutiennes.
Oui.
Qui sont un autre bout du monde, au sud de l'Alaska.
Oui.
La Sibérie, le Grand Nord sibérien a été totalement interdit, même aux Russes, sauf ceux qui avaient un travail à y faire. Mais c'est quand il y a eu la perestroïka et puis l'ouverture. J'ai pu y aller à partir de 1991 et j'ai fait six missions très intéressantes. Alors, ça n'était plus les chasseurs de phoques, c'était les éleveurs de rennes, des nomades, mais aussi le renne étant l'animal principal.
Très
important, et avec des froids effrayants. Et tout récemment, j'avais une traductrice, une jeune yakoute qui me servait de traductrice et qui m'a envoyé il y a une semaine le bulletin de la ville de Yakoutsk en Yakoutie. Il faisait moins 53.
Oula. Effectivement.
Et elle, ça peut être encore plus froid.
Tout à fait. Donc,
là, c'est assez effrayant.
On y va bien couvert, je suppose. On met des bottes bien fourrées, deux paires de gants, des chapkas, des manteaux.
Je
suppose.
Très adapté.
Bien sûr. Mais c'est vrai, je rêve personnellement. Je vous en parlais ce matin. Moi, je suis débordante d'enthousiasme à ce sujet. Et c'est vraiment des régions qui m'attirent. Mais aller passer quelques jours, même par de grosses températures. Alors, pour ceux qui seraient envie d'y aller, si on veut aller au Groenland, quelle est la meilleure saison, Joël Robert Lamblin? Quelle est la meilleure saison?
Je dirais ça dépend de ce qu'on
veut faire.
Ce qu'on veut faire. Si on cherche une période un peu hivernale, mais pas trop, ni trop sombre, parce que l'hiver est sombre, évidemment, et froid, la fin d'hiver est une période très belle.
Vers mars, mois de mars.
Oui, vers mars, exactement, où on voit encore les conditions hivernales. Le soleil, la lumière est revenue, donc on peut se déplacer et tout. Il y a cette période qui est très belle.
Et là, il fait quoi? Il fait moins 10? Zéro, moins 10?
Ça dépend où vous êtes.
Ça dépend, oui.
Plus vous montez vers le nord, plus c'est froid.
Évidemment.
Et le pays est tout en longueur, vous savez.
Oui.
Et puis l'été, le mois de juillet... mois d'août peut être très, très agréable aussi, quand la glace se fond et qu'on voit dériver
des icebergs,
ou des morceaux de banquise. Il ne faut pas aller... Ça c'est valable pour le Groenland qui est au bord de la mer, où il n'y a pas trop de moustiques, mais sinon l'été sibérien est infernal. En Sibérie, là où j'ai été, je dirais que l'automne est très très agréable, mais l'hiver vous rattrape vite.
Je me contenterai du Groenland si jamais j'ai.
Maintenant, la Sibérie en ce moment, c'est
on va peut-être éviter la Sibérie pour le moment.
Absolument. Absolument. Non, le Groenland, c'est une très belle, c'est un très beau pays.
Oui.
Et les conditions ont pas mal changé.
Oui.
Et maintenant, effectivement, il n'y a plus de... la banquise est de plus en plus fine.
Fine, oui.
Mais pour vous dire, la première fois que je suis allée en 67, j'étais partie sur un cargo danois qui livrait des produits qui manquaient depuis plusieurs mois dans le pays puisqu'il n'y avait pas de contact. Et j'avais demandé à être sur le premier bateau qui arrive parce que c'est la grande fête.
J'imagine. Bien sûr.
Et puis, j'ai été inscrite sur le deuxième, ce qui m'avait rendue tout à fait mécontente. Mais la chance a voulu que le premier cargo est arrivé en face, presque en face d'Amasalik, mais de l'autre côté de la banquise, elle s'est fait piéger dans la banquise et a dérivé pendant 3 semaines.
Ah oui.
Et que mon bateau est arrivé le premier. Mais ça, c'était à une époque où la banquise, c'était encore quelque chose de très compact et très serré. Maintenant,
elle est fine.
On n'y va pas toute l'année quand même facilement, mais,
bien sûr.
Mais la période d'ouverture au bateau est beaucoup plus large.
Oui.
Et puis, maintenant, il y a aussi un petit aéroport, des contacts.
On s'y déplace quand même en traîneau, je suppose, de toute façon.
Le traîneau, c'est au moment où il y a la neige.
La neige.
C'est-à-dire, c'est pour ça, si vous voulez y aller en mars, on s'y déplace en traîneau aussi.
Oui, voilà.
En traîneau ou en motoneige.
Ou en motoneige,
l'un ou l'autre.
Moi, je veux y aller quand il y aura encore de la glace et de la neige. Voilà.
Oui,
Ouais. Donc au mois de mars, alors, ça me semble pas mal.
Oui, voilà. Oui, oui, absolument. Mm. Il faut y aller. Ben, il y a une région où les gens n'ont pas abandonné le traîneau.
Oui.
Alors, oui, parce que nourrir les chiens, c'est
oui.
extrêmement coûteux.
Oui.
Et justement, c'est un peu un des méfaits de, du réchauffement climatique, c'est que si on chasse et on pêche, si on chasse moins, le phoque, on peut pas, on n'a plus les moyens d'avoir un,
oui, bien sûr.
Un traîneau avec beaucoup de chiens.
Oui.
Alors, il faut être conscient de ça
oui.
et bien se renseigner.
Oui.
Mais c'est magnifique,
oui.
c'est très attractif. Oui. Oui.
Comment vivent aujourd'hui les Lamassal Inuit, hein, je le dis bien, c'est Lamassal Inuit.
Lamassal
Inuit. Comment vont-ils aujourd'hui
Bah, écoutez, il y a ceux qui vivent dans les tout petits villages
oui.
qui ont, mais ils sont de moins en moins nombreux parce que les centres attirent le monde
et oui.
la ville principale attire le monde. Mmh. Dans la ville principale, évidemment, il y a des maisons, il y a des supermarchés, il y a des trucs. C'est très proche de notre mode de vie
par certains
côtés parce que c'est quand même. Et la population est très attachée à sa langue en tout cas.
Oui.
Et puis alors dans les petits villages, il n'y en a plus beaucoup, mais où il y a à peu près 200 habitants, c'est encore très près de la nature. C'est là qu'on rencontre les plus proches de leurs ancêtres, chasseurs de phoques.
Oui.
Mais il y a un certain confort dans les maisons qu'il n'y avait pas, évidemment. Ni même, moi j'ai vu une époque où il commençait déjà à être occidentalisé, mais c'est-à-dire en se développant très vite, oui.
Oui. En tout cas, c'est un livre magnifique. Qui vous a demandé combien de temps pour le réaliser, ce magnifique ouvrage?
Eh ben, vous savez, c'est une réédition.
C'est une réédition, oui.
Oui. La première édition a été en deux tomes.
Oui.
Et le premier tome, Paul-Émile était tellement, tellement, tellement pressé que dès qu'on a trouvé un éditeur, le livre avait été fait en 4 mois. Mais moi, je souffrais. Hein,
bah oui, j'imagine.
Je faisais mes textes.
Et
je m'occupais de ses dessins, lui ai envoyé.
C'était un gros travail, oui, c'était un gros travail.
Un gros travail, et en plus, il était à Bora Bora, ce qui ne facilitait pas les
dessins. Les contacts,
les contacts, à l'époque où il n'y avait ni portable, ni...
Et oui, bien sûr.
Et même le fax était une...
Oui.
Était existé, mais il l'avait pas sur son petit îlot.
Oui, à Bora Bora, oui, c'est sûr. Oui.
Il était sur un îlot à l'île.
Oui, oui.
Voilà. Et puis alors, le deuxième tome a été... Alors, deuxième tome qui comprenait toute la partie vie spirituelle, chamanisme, magie, croyance dans la vie, dans l'au-delà, etc. Ça a été plus long, parce que là, j'ai pris mon temps.
Oui.
Et il y avait une partie de légendes et de poèmes qui a été retirée pour cette réédition-là. La réédition de Belin.
C'est très belle, vraiment un très bel ouvrage.
Alors, une réunion des deux tomes, moins la littérature... c'est-à-dire les récits
et
les poèmes, parce qu'on les trouve sur d'autres supports. Oui, voilà. Et puis réactualiser vers une période plus récente pour ma part,
bien sûr.
Notamment dans la conclusion. Voilà, donc c'est aussi pour faire revivre un peu ce magnifique travail de
Paul-Émile Victor.
Et aussi cette belle civilisation.
Oui.
Qui s'est installé dans un pays inhumain, il n'y a pas d'arbres.
Bien sûr.
Il faut vivre. Le bois arrive c'est du bois flotté qui arrive
les
courants.
Les courants,
Toute adaptation est incroyable dans un climat pareil.
Oui. En tout cas, c'est un livre magnifique qui nous. Moi, j'ai été heureuse d'aller à la rencontre de cette civilisation et puis on y apprend plein de choses, un mode de vie. Comme dit Enki Bilal, ça fait un bien fou, ce livre fait un bien fou. Voilà. Et puis, c'est un magnifique travail à quatre mains, je dirais. Un travail
oui,
à quatre
absolument,
mains.
Absolument, oui. Ah, oui, voilà. C'était merveilleux.
Oui, oui.
Moi, j'ai adoré ce travail.
Et c'est un bel hommage à Paul-Émile Victor également. C'est un très bel hommage. Je vous remercie infiniment. J'aurais pu encore vous parler pendant des heures, Joël Robert Lambla. C'était un réel plaisir d'aller à votre rencontre. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, La civilisation du phoque aux éditions Belin. Merci. Vous avez d'autres projets d'écriture sur vos voyages, vos expériences, vos découvertes rapidement?
Pas immédiatement,
d'accord.
Mais ça pourrait se faire.
Eh ben, ce sera avec grand plaisir que je vous retrouverai, en tout cas.
Eh ben, je vous remercie aussi.
Merci infiniment. Merci.
À une autre fois.
À une autre fois. Voilà. Quant à nous, ben nous nous retrouvons pour de nouvelles aventures. Franchement, je vous demande, voilà, je vous prie de lire ce magnifique livre, un très bel hommage à Paul-Émile Victor avec des dessins, des textes. Vraiment, si vous voulez voyager, vous échapper un petit peu de cet hiver, eh bien, n'hésitez pas. C'est sûr que je ne vous envoie pas vers des contrées bien chaudes, mais tant pis. Au coin du feu, c'est toujours très agréable de lire un beau livre. À très bientôt. Merci. Au revoir.